Bonjour à toutes et à tous, il est 17h, nous sommes le mercredi 22 octobre 2025, vous avez reconnu notre générique, 1h30 jusqu'à 18h30 à écouter au fil des pages sur Radio Libertaire. Frédéric, Agnès, Marie, Dominique, Francis et notre invité Marc Bloky pour parler de son livre 993, Le convoi numéro 11, Drancy-Auschwitz, du 27-29 juillet 42, publié chez nos amis de Sileps. Frédéric, une annonce, je crois.
Oui, tout à fait. N'oublions pas l'émission du groupe Commune de Paris qui aura lieu samedi prochain, le 25, de 11h30 à 13h30, des chroniques sur Radio Libertaire. Soyez au rendez-vous, vous trouverez aussi les podcasts sur la page de l'émission de Radio Libertaire. Je te passe l'antenne.
Merci. Alors au programme de cette émission, une dominante historique et première demi-heure, comme d'habitude, pour alimenter le débat. Louis Guillou et Albert Camus, des origines communes. En effet, Sylvie Le Bihan nous offre un livre intitulé « L'ami Louis », consacré à Louis Guillou, mais qui pourrait aussi avoir pour titre « L'ami Louis et l'ami Albert », tant Albert Camus est présent au fil des pages en raison de leur amitié intense. L'ouvrage a plusieurs entrées. Dans les années 70, la vie d'une jeune fille partie à Londres, rejetée par sa famille, surtout son père, car elle se retrouve enceinte. Des Français moyens, commerçants dans la banlieue sud de Paris, elle travaille dans le monde de l'édition, dans une grande Bretagne en pleine mutation, et une rencontre avec Bernard Pivot, et la voilà, dans l'équipe d'Apostrophe, chargée de préparer une émission consacrée à Camus. Camus, lourd-marin, l'ombre de Louis Guillou n'est pas loin. Nouvelle entrée, l'héroïne, c'est un roman, se retrouve aux 13 rue Lavoisier à Saint-Brieuc, devant la maison de Louis. Elle domine cette maison, une ville en évolution, un cimetière, le cimetière Saint-Michel, où il repose aujourd'hui. Louis Guillou, c'est Saint-Brieuc. Sa famille ouvrière, son père militant, on vivait dans la pauvreté, sinon le dénuement. Il fallait travailler pour vivre. Son père était cordonnier, socialiste, syndiqué, et il s'engage dans la construction d'une maison du peuple dont la façade existe toujours. Et Louis Guillou lui rend un magnifique hommage dans La Maison du Peuple, publié chez Grasset. De là, la réputation d'écrivain prolétarien. Certes, il est issu du monde ouvrier, et il en parle bien, car c'est son ouvrage. C'est son ancrage. Mais il est un écrivain, un homme libre et ne s'engagera dans aucun parti, dans aucune case. Il lui restera toute sa vie, selon les mots de l'autrice, une éducation, je cite, fondée sur la conscience de leurs conditions, au seuil de la misère, mais surtout sur la fierté d'appartenir à une classe populaire et travailleuse, le prolétariat. Il gardera cette haine de l'injustice et son amour à l'égard des pauvres. Trois livres en sont particulièrement le reflet, La Maison du Peuple, que j'ai évoqué, Le Sang Noir et OK Joe, lisez-les. Il aurait pu s'installer à Paris. Il n'y eut qu'un pied-à-terre, rue du Dragon, peuplé d'écrits, de projets, de souvenirs d'amour. Il a besoin de retrouver Saint-Brieuc aux façades grises, tristes, son quartier d'enfance autour de la cathédrale. C'est sa Bretagne. Il y vieillira et il y reposera. Je cite « Saint-Brieuc, j'en suis parti parce que le métier d'écrivain ne pouvait se faire qu'à Paris, mais j'y suis toujours retourné car c'est là que j'ai vécu une enfance heureuse et que sont gravés mes plus beaux souvenirs. On ne quitte pas une ville où on a été aimé. » Et son engagement pour les pauvres se traduit dans son soutien aux réfugiés espagnols, la guerre d'Espagne, contre le fascisme. Et nous retrouvons évidemment Albert Camus. Vous lirez la rencontre fin 1945, l'éblouissement de Louis, leur complicité, leur communion d'esprit et d'origine. Je cite encore, « Il m'a sauvé car il est arrivé dans ma vie à un moment où je croyais le bonheur impossible », affirme Guillou. Entre l'enfant de Babeloued et celui de Saint-Brieuc, ils n'oublient pas d'où ils viennent. La préface rédigée par Camus de La Maison du Peuple, suivie de Compagnon, est probablement l'analyse la plus fine et sensible de leur amitié. La pauvreté, par exemple, je cite, « laisse à ceux qui l'ont vécu une intolérance qui ne supporte mal qu'on parle d'un certain dénuement autrement qu'en connaissance de cause », relève Albert Camus. Voilà qui fait songer à Henri Poulaille et à la légitimité de la littérature prolétarienne. Louis Guillou observe la passion de Camus et de Maria Cazares. C'est Albert qui lui aurait fait rencontrer une autre passion, celle de Liliana Magrini, traductrice en Italie de Camus, autrice de plusieurs livres, dont le très beau Carnet vénitien dont nous avons déjà parlé dans cette émission. Est-ce à elle que songe Guillou lorsqu'il écrit son dernier ouvrage, Coco perdu ? La mort absurde de Camus crée une rupture dans l'esprit de Guillou. Rien ne sera plus comme avant. Saint-Germain-des-Prés, les cafés, les débats, les promenades dans Paris, la légèreté de la vie. Comment vivre sans Camus ? Je vous donne les références, je vous les rappelle. Sylvie Lebihan, L'ami Louis, aux éditions de Noël en 2025. C'est sorti là tout récemment. Mais l'histoire, c'est donc des histoires de rencontres et d'amitiés profondes. Mais l'histoire, c'est celle des femmes et des hommes, comme nous venons d'en faire état. Mais c'est aussi la nécessité de dégager le vrai du faux. Et Marie, dans son intervention que nous allons écouter, eh bien, insiste sur cette nécessité de retrouver l'exactitude, autant que faire se peut, l'exactitude historique au-delà du discours et du mythe. Frédéric, on passe Marie.
Alors aujourd'hui, nous présentons le livre « En finir avec les fausses idées sur l'histoire de France » par l'historien médiéviste Julien Thierry, paru en octobre 2025 aux éditions de l'Atelier. L'histoire a toujours été plus ou moins instrumentalisée à des fins politiciennes qui font de la récupération du savoir et de la science en général, de manière que cette appropriation alimente leur propre idéologie et leurs ambitions propagandistes. Nous pouvons aisément nous en rendre compte en suivant l'actualité et la façon dont le trumpiste et le populisme gagnent du terrain dans le monde, déclenchant ainsi une bataille culturelle informationnelle menée de front par la bolosphère et autres médias d'opinion et d'influence en France. Face à ce climat nauséabond qui sévit de plus en plus dans cette société complètement matrixée à un mode de vie et de pensée qui lui est de plus en plus imposé, l'histoire avec un grand H, basée sur l'étude rigoureuse des faits tels qu'ils sont et qu'ils ont été, permet en quelque sorte de nous remettre les idées en place à travers l'étude des sources primaires et d'en appréhender ainsi toute leur complexité, et de façon justement à ce que l'histoire, notamment celle qui nous est enseignée, ne soit pas librement interprétée dans la logique d'en contenter certains, d'en frustrer ou d'en culpabiliser d'autres. Ce petit ouvrage, introduit par une citation on ne peut plus juste, « Corriger les idées fausses, c'est l'essentiel du travail des historiennes et des historiens », nous amène justement à réfléchir sur la perception que nous avons de l'histoire et de la réalité des faits historiques. Et par moments, notre perception est volontairement ou involontairement tronquée, car alimentée par des discours idéologisés au service de la fabrique d'un roman, voire d'un mythe national, pour faire référence aux travaux de l'historienne Suzanne Citron sur ce sujet dans les années 1980, et prêchant souvent un patriotisme exacerbé qui découle des fausses idées diffusées sur l'histoire de France en l'occurrence. Ce livre se découpe en trois parties qui se suivent chronologiquement, la première faisant état des principales idées fausses sur l'Antiquité et le Moyen-Âge. En premier lieu, une formule pédagogique usuelle au début des années 1880, « nos ancêtres les Gaulois », qui résulte de la tentative efficace de Napoléon III sous le Second Empire de promouvoir le mythe national gaulois en assimilant par exemple son coup d'État de 1851 à la prise de pouvoir de César. Ce mythe a perduré dans le temps, au point que certains politiques de droite conservatrice et d'extrême droite se plaisent à dire fièrement que les racines des Français seraient automatiquement et indubitablement gauloise, ce qui est tout de même discutable sur le plan historiographique. Ensuite, nous avons l'affirmation que le Moyen-Âge fut une époque des ténèbres, La plupart des historiens médiévistes, comme Jacques Le Goff, ont démontré à travers une multitude d'ouvrages que le Moyen-Âge n'est pas systématiquement associé à l'obscurantisme. En réalité, la période du Moyen-Âge, qui s'étend sur environ un millénaire, est relativement peu connue et enseignée dans les grandes lignes, hein, à travers des aspects pas forcément très reluisants. Bon, les programmes ont changé depuis, mais bon, c'est vrai qu'on parlait souvent des épidémies de peste noire, des croisades. Bon, forcément, hein, les croisades très meurtrières. L'idée aussi que Charlemagne aurait inventé l'école est également très inexacte. Il a en effet contribué à son développement durant son règne. Mais par exemple, des écoles urbaines avaient déjà émergé, notamment en Italie du Nord, au Xe et XIe siècle. Et puis, l'école était très très inégalitaire, hein, jusqu'au XIXe siècle, il ne faut pas l'oublier. Ce n'était que des privilégiés qui pouvaient bénéficier d'une instruction gratuite, enfin, d'une instruction en tout cas, enfin, pas forcément gratuite, mais d'une instruction. Il y a eu une église hérétique cathare dans le midi de la France, ça aussi, une idée fausse. À une époque où l'Inquisition était très forte, y compris envers les femmes qui étaient soupçonnées de sorcellerie, le péché d'hérésie s'appliquait envers quiconque osait défier l'autorité de l'Église catholique en France. Dans une deuxième partie qui traite de la Renaissance à la fin du XIXe siècle, nous avons d'autres exemples de fausses idées, comme celle que la Révolution française s'est rendue coupable de génocide vendéen. Ce discours a été particulièrement relayé par les politiques d'extrême droite, notamment Philippe de Villiers, qui en a fait justement quand même son grand projet. Hein. Et il y a eu bel et bien des victimes, hein, des colonnes infernales, plusieurs dizaines de milliers, mais de là parler de génocide, bon, c'est très discutable. Et aussi une idée que Napoléon serait une des plus grandes gloires de l'histoire de France, une affirmation, voilà, très... très, très instrumentalisé, car comme nous savons à quel point Napoléon était belliciste, impérialiste, mais les nostalgiques de Napoléon pourraient admirer son parcours en tant que chef de guerre principalement. Hein. Napoléon a été très, très instrumentalisé, d'ailleurs par de nombreux historiens aussi, comme par exemple, comment il s'appelle déjà, Jean Tullard.
Oui, Tullard, oui.
Oui, voilà, qui est quand même un spécialiste de la période napoléonienne, quand même, il faut le dire. Et nous parlons aussi de la fameuse idée fausse de la tradition d'antisémitisme de gauche, une idée particulièrement récente, véhiculée à partir des années 2010, fruit d'une bataille idéologique, particulièrement en ce moment, hein, depuis les massacres du 7 octobre et les exactions de l'armée israélienne à Gaza. Donc c'est vraiment une idée qui a persisté. Mais bon, c'est surtout Drumont qui était antisémite. C'est pas tant la gauche française. En vérité, au XIXe siècle, ne véhiculait pas des idées tant antisémites que ça. Et ça aussi, c'est le fruit d'un grand débat historiographique, particulièrement en ce moment. Et la dernière partie, axée sur le XXe siècle, avec par exemple des affirmations du style... Bah, tous collabos pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, en réalité, beaucoup de gens n'étaient pas du tout en faveur de la collaboration et du régime pétainiste. Et ça, c'est un fait, bien évidemment. Ou alors, la guerre d'Algérie n'a pas été si meurtrière. Bah, y a quand même eu 500 000 victimes, rien que du côté des Algériens. Donc oui, forcément, on ne peut pas parler d'une petite guerre qui n'a fait aucune victime. Voilà, ou qui a été peu meurtrière, 500 000 victimes, c'est quand même très conséquent. Donc voilà, tout autant d'affirmations qui montrent bien en fait à quel point l'histoire, oui, peut être manipulée, voilà, toujours à des fins politiques. Et c'est pour ça donc que cet ouvrage est important, en finir avec les idées fausses sur l'histoire de France, donc de l'historien Julien Thierry, aux éditions de l'Atelier, et donc paru... là, tout récemment, en octobre 2025.
Quantité de souvenirs nous animent dans cette émission. Ceux de l'amitié, des enseignements dispensés dans l'école publique, et dans un instant, des souvenirs, et particulièrement des souvenirs de l'absence, avec Marc. Mais avant cela, écoutons Julien Clerc évoquer les souvenirs. Les souvenirs de Julien. de Julien Clerc.
Les souvenirs sont un peu comme ces voyages que l'on fait seul et sans partage au fil des ans, au cours des âges. Les souvenirs qui s'expriment fort et nous hantent et nous poursuivent et nous tourmentent, parlant de nos amours démentes. Les souvenirs qui au fond de nos pensées veillent et qui par moments se réveillent, rallumant en nous des merveilles. Les souvenirs de ce temps riche et de folie, teinté d'humour que dans la vie on dévoile avec nostalgie. À l'âge où l'enfance revient, à pas compter voûté par l'âge, à l'âge où le mot lendemain n'a plus cette force sauvage qui jadis défiait le destin, à l'heure où tout chante ou déchante, les souvenirs restent cloués, et lorsqu'en nos cœurs ils se plantent, plus rien ne peut les enchasser, plus rien ne peut les enchasser. Les souvenirs sont ces incroyables images qui peu à peu ont fait naufrage dans les eaux troubles d'un autre âge. Les souvenirs, ils nous font mal ou nous caressent, ils nous obsèdent et n'ont de cesse que de réveiller la jeunesse. Les souvenirs sont les cadeaux d'une mémoire qui nous raconte des histoires faites de jours roses ou noirs. Les souvenirs, années de risques et de déboires, espoirs déçus ou jours de gloire, d'amour raté ou de victoire. À l'âge où l'enfance revient, à pas compter voûté par l'âge, à l'âge où le mot lendemain n'a plus cette force sauvage qui jadis défiait le destin, à l'heure où tout chante ou déchante, les souvenirs restent cloués, et lorsqu'en nos cœurs ils se plantent, plus rien ne peut les enchasser, plus rien ne peut les enchasser. Je veux m'asseoir devant ma porte à regarder couler les ans et laisser venir en cohorte ces choses qui me semblaient mortes et qui revivent avec.
Nous arrivons à la deuxième demi-heure de notre émission avec Marc Flocky. Bonjour Marc.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Tu es un militant impliqué dans l'action politique actuelle et passionné par l'histoire, la mémoire. Nous avions travaillé ensemble lors du 150e anniversaire de la Commune de Paris dans l'association Faisons vivre la Commune. Et nous présentons régulièrement dans notre émission des ouvrages de ton père, Maurice Rachefus. Nous avons même reçu ta sœur dans notre émission pour la réédition des livres de celui-ci aux éditions du Détour. On continue toujours à publier.
Oui, oui, on est à un peu plus d'une douzaine de titres. Je pense qu'on s'arrêtera à une quinzaine. On aura édité, je dirais, les livres, dire les plus importants. C'est peut-être pas comme ça que l'aura entendu Maurice, mais enfin, en tout cas, ceux qui aujourd'hui ont du sens par rapport à l'actualité, à l'histoire, des livres, certains diraient d'une certaine permanence, d'autres livres étaient peut-être plus, plus conjoncturels.
Oui. Aujourd'hui, nous allons avec toi vivre le parcours du convoi numéro 11 de Drancy à Auschwitz, du 27 au 29 juillet 1942, pour reprendre le titre de ton livre publié chez Sileps. 913 femmes, hommes et enfants sont arrachés à leur vie familiale, modeste, bercée d'illusions sur la France, pays des droits de l'homme, conduit par la police et la gendarmerie française, les nazis aussi, vers les camps de la mort. Parmi eux, il y a Rivka, Naoum.
Rivka et Naoum.
Les tes grands-parents, que tu n'as pas connus, comme tu l'écris, ils sont partis un jour de la gare du Bourget, près de Paris. Alors Marc, pourquoi écrire ce livre aujourd'hui ?
C'est un besoin que je ressentais déjà depuis longtemps. J'écris depuis quelques années plutôt des chroniques, plutôt des textes, des choses comme ça. Mais quand j'avais lu le livre d'Ivan Jablanka, qui était paru en 2012, qui s'intitule « Histoire des grands-parents que je n'ai pas eu », ça fait un peu comme un déclic, puisque ce livre racontait des trajectoires qui étaient relativement proches de celles de mes grands-parents. Comme mes grands-parents, ils ont été déportés à Auschwitz, ils ne sont pas revenus. Comme mes grands-parents, ils venaient de Pologne. Comme mes grands-parents, ils n'avaient jamais réussi à se faire naturaliser. Ils s'étaient installés malgré tout en France. Ils vivaient de façon plus ou moins illégale, mais il y avait des enfants qui étaient nés en France, qui poursuivaient une scolarité en France. Et c'est vrai que ce livre m'avait beaucoup à la fois passionné, bouleversé, à la fois dans ce qu'il racontait, dans toutes les recherches qu'il avait pu effectuer, que ce soit dans les archives judiciaires, dans les archives de la préfecture de police ou dans d'autres archives encore. Et j'en étais un peu resté là lorsque, 6-7 ans plus tard, par hasard, je suis tombé sur un fichier. En fait, quelqu'un m'a envoyé un fichier du convoi numéro 11. Je savais que mes grands-parents avaient été déportés par le convoi numéro 11. J'étais déjà allé rechercher quelques informations, et mon père aussi, bien entendu. Mais ce fichier avait plus qu'éveillé mon attention, puisqu'il provenait en fait d'une recherche d'un historien, Jean-Luc Pinol, qui, aux éditions du Détour, avait publié un livre sur l'ensemble des convois. Il y en a 80 des convois entre mars 42 et août 44. Et il avait tenu à, présenter chacun des convois avec les particularités de chacun de ces convois. Parce que tous ces convois ne se ressemblent pas.
Plus ou moins de personnes ou non, tout à peu près 1000 à chaque fois.
Environ 1000, c'était, ouais. Je dirais, le fantasme des Allemands, c'est-à-dire un convoi, c'est 1000 personnes, donc on sait qu'on est à tant de convois, qu'on est à tant de milliers ou dizaines de milliers de personnes qu'on envoie à la mort. Mais du coup, pardon, il pouvait parfois exceptionnellement n'y avoir que quelques centaines de déportés, et parfois ça a pu monter jusqu'à 1500 déportés, mais c'était exceptionnel. La plupart des convois comportaient plus ou moins 1000 victimes.
Tu disais tout à l'heure que tes grands-parents n'avaient pas pu se faire naturaliser.
Oui, je crois.
Pourquoi? C'était une volonté politique de ne pas les naturaliser.
Il y a eu beaucoup de refus.
Oui, pourquoi?
Il y a eu aussi beaucoup d'acceptations, de dossiers qui ont été acceptés. Ils n'ont jamais su, parce que la préfecture ne donnait jamais
Oui, il n'y a pas de motif là-dessus.
Il n'y a pas de motif, oui. Ils l'ont fait au moins à deux reprises dans les années 30. Maurice, mon père, pensait que les rapports de la concierge ne leur étaient pas favorables. Ils avaient affaire à une concierge particulièrement xénophobe, antisémite, et qu'elle n'avait pas dû arranger les choses, puisque à chaque fois qu'on fait une demande de naturalisation, en tout cas à cette époque, il y avait une enquête de voisinage, et bien entendu...
Quasiment de moralité.
De moralité, et bien entendu... on allait voir en priorité la concierge.
À la Bignole, oui, oui. Alors, ce livre, comment est-il composé ?
En fait, au départ, je ne savais pas que j'allais faire un livre. Je savais que j'allais m'intéresser à ce qu'on voit et que j'allais essayer d'exploiter au maximum ce fichier, essayer de comprendre qui était dans ce convoi, comment il était composé et pourquoi ces gens s'y étaient retrouvés. Et au fur et à mesure... je dirais, de ce travail de recherche sur le fichier, j'ai commencé à imaginer des thématiques. C'est comme ça que ça s'est passé, en fait. Il n'y avait pas de plan sur lequel j'aurais travaillé dès le départ. Moi, ma première recherche, ma première obsession, parce qu'on peut vraiment parler d'obsession, c'était de m'assurer que ce fichier correspondait bien à la réalité. Alors, ça a l'air bizarre de dire ça comme ça, parce que, en fait... les informations ne sont pas toujours évidentes. Il y a ce qu'on peut appeler... les convois étaient accompagnés d'une liste, la liste des convois. Il y avait également la préparation des convois à Drancy, ou éventuellement dans les camps du Loiret.
Qui les préparait, ces convois ?
Eh bien, les convois, ils étaient préparés sur place, pour l'essentiel à Drancy, par les internés eux-mêmes. Les nazis demandaient tant de personnes pour tel jour. Et Drancy, c'est un peu comme une sorte de camp qui préfigure les camps nazis. Il fonctionne comme un camp où ce sont les internés qui administrent et qui font vivre le camp. Alors après, il y a de surveillance d'abord de la gendarmerie et puis plus tard des nazis quand ils vont reprendre la main. Mais ça fonctionne exactement comme fonctionnent les camps de concentration nazis. Ce sont les internés eux-mêmes ou les futurs déportés qui administrent le camp.
D'accord. Donc alors il y a cette liste. Et puis après, il y a plusieurs parties dans le livre.
En fait, peut-être pour revenir rapidement sur la liste, j'ai d'abord fait tout un travail de vérification. C'est-à-dire que cette liste, au départ, elle comportait 980 noms. Moi, je suis arrivé à 993. Mais c'est un travail où parfois je suis monté un peu plus de 1000, des fois je suis descendu un peu moins de 990, tout simplement parce que il y a des problèmes d'orthographe des noms. Qui souvent étaient inscrits de façon phonétique ou avec des fonctionnaires qui n'en avaient rien à faire et qui mettaient sur le papier ce qu'ils entendaient plus ou moins comme déclaration ou ce qu'ils avaient envie de lire sur les papiers qui leur étaient présentés. Ensuite, il y avait des problèmes d'homonymie. Il y avait des problèmes avec les prénoms. Des fois, des confusions entre les convois. J'étais amené... à enlever plusieurs personnes qui étaient sur le convoi numéro 10, donc qui étaient partis un ou deux jours avant, ou des fois des gens qui étaient prévus sur le 11 mais qui n'ont été déportés que sur le 12. Donc tout ça n'a été amené qu'au fur et à mesure, parce qu'en fait j'ai fait une vérification nom par nom. Cette vérification, je l'ai réalisée sur la base de données du Centre de documentation juif contemporain, donc abrité au Mémorial à Paris, rue Geoffroy Lanier. Et cette base de données, elle est très riche et elle permet des croisements et des recoupements. C'est comme ça que je suis parvenu à imaginer que cette liste était à peu près la bonne avec les 993 noms. Mais je ne suis pas à l'abri d'un oubli ou d'une erreur. Mais je pense qu'à 99%, je dirais, mes résultats sont corrects. Il n'y a pas de gros oublis ou il n'y a pas d'erreur manifeste. Et donc, à partir du moment où j'avais réalisé tous ces recoupements, alors les recoupements peuvent se faire par le nom, on peut interroger par un nom de famille, on peut interroger par un lieu de résidence. Ces gens, pour la plupart, habitaient Paris, la région parisienne et quelques-uns l'est de la France. On pourra peut-être y revenir tout à l'heure. Et puis, quand vraiment je n'arrivais pas à retrouver éventuellement quelque chose de précis ou que je n'avais pas, on pouvait interroger aussi les lieux de naissance. Alors quand c'est les petites bourgades, des toutes petites villes, et que le nom n'est pas trop commun, on peut trouver assez facilement. Quand c'est un nom très très commun, comme Lévis par exemple, et que c'est à Varsovie, c'est des milliers de noms, et là c'est quasiment hors de question d'aller rechercher une information, parce que c'est quasiment impossible à trouver. Et à partir du moment où cette liste a été stabilisée, il se trouve que dans cette base de données, il y a également parfois les notices, pas systématiquement. Il y a beaucoup de déportés et de victimes qui restent totalement anonymes, plusieurs centaines. On n'a que leur nom, que le convoi. On sait souvent, on ignore le lieu où ils ont résidé, on ignore leur activité, on ignore parfois leur lieu de naissance. Ça concerne plusieurs centaines de personnes dans le convoi. Mais grâce aux notices, grâce parfois à des recherches aussi supplémentaires sur des bases de données liées à la généalogie, ça pouvait permettre de compléter. C'est à partir de ce moment-là, avec la lecture des notices, que j'ai commencé à me dire que ce serait bien déjà d'évoquer l'étoile jaune, d'évoquer les premières rafles, pour ensuite s'intéresser, et c'est comme ça que s'est construit le livre, pour ensuite s'intéresser aux adolescents, il y a 70 adolescents, pour s'intéresser ensuite aux femmes et aux hommes, il y a trois fois plus de femmes que d'hommes, et j'essaie d'expliquer pourquoi. Mais il n'y a pas d'enfants en bas âge. C'est-à-dire qu'en dessous de 14 ans, il n'y a aucun enfant, alors que tous ces adultes, femmes comme hommes, il y a une soixantaine de couples qui sont présents dans le convoi sans enfants, il y a plusieurs familles, parfois complètes ou non, qui sont aussi présentes. Mais j'ai été amené, du coup, par tous ces différents recoupements, à retrouver près de 120 enfants qui sont en filiation directe avec le convoi, en filiation directe avec les adultes du convoi. Et donc je me suis me demandé, c'est un chapitre assez important du livre, ce qu'étaient devenus ces plus jeunes enfants. Alors on s'aperçoit qu'en gros, un tout petit tiers ont échappé au pire, ont pu être cachés, surtout ceux qui ont été cachés directement par les familles ou qui ont bénéficié d'un réseau, totalement indépendant des autorités. C'est important, on va peut-être y revenir. Et puis, tous les autres enfants ont fini par être déportés, soit parce qu'ils avaient été arrêtés avec les parents les 16 et 17 juillet 42 à Paris ou en région parisienne ou encore dans l'est de la France, et ensuite amenés dans les camps du Loiret. La plupart des enfants avec les mères ont été emmenés à Pithiviers ou à Beaune-la-Rolande. Mmh. Et quelques semaines plus tard, ou même parfois assez rapidement, les enfants ont été séparés des mères à coups de crosse par les gendarmes. Ça a été des scènes absolument
abominables. Par les gendarmes.
Ce sont les gendarmes qui surveillaient les camps du Loiret. Mmh. Et c'est les gendarmes qui ont effectué cette séparation avec beaucoup de talent, comme on le sait par différents témoignages. Beaucoup de talent, bien sûr, et de violence. Et donc ces enfants, quelques-uns étaient parfois dans les convois de la fin de l'été ou de l'automne, mais la plupart sont revenus à Drancy, seuls, des enfants de 0 à 14, 15 ans, mais souvent des petits-enfants, beaucoup d'enfants de moins de 10 ans. Et de Drancy, ils sont repartis par milliers dans les convois la deuxième quinzaine du mois d'août et jusqu'à l'automne 42. Et ce sont tous des enfants français. Et c'est important de le dire parce que ce sont des enfants qui sont nés en France, qui ont bénéficié du droit du sol et qui ont tous été déclarés français à la naissance, comme le permettaient les lois de la République.
Et tu as aussi de nombreux témoignages. Il y a de nombreux témoignages dans ce livre.
Alors, en fait, il y a quelques témoignages que j'ai pu reprendre à partir des notices qui existent sur la base de données, mais surtout, ce livre, il a une particularité, c'est que, bien sûr, il rend hommage à ces 993 victimes de la barbarie nazie et de la barbarie pétainiste. Les deux ont fonctionné ensemble, main dans la main. Il rend hommage à mes grands-parents, que je n'ai pas eu pour reprendre le titre du livre d'Yvan Jablonka, j'en parle à deux ou trois reprises dans le livre. Et puis il rend aussi hommage à mon père, Maurice, qui a beaucoup écrit sur le sujet. Donc le livre, c'est un peu un aller-retour à chaque fois entre la situation des victimes, des déportés, telle que j'ai pu, telle qu'elle s'exprime à travers ces fichiers, ces notices et ces quelques témoignage, et puis le témoignage de Maurice, qui est pour moi un témoignage de première main. Il avait 14 ans, il a été arrêté, il a vécu ça en direct, il a dû se cacher, il a dû porter l'étoile jaune pendant 2 ans jusqu'en juin 44.
On rappelle qu'il a réussi à sortir... Au moment de la rafle du Vel'd'Hiv.
Oui, oui, à la fin de l'après-midi, ils avaient été arrêtés dès 5h du matin. Les flics étaient venus les chercher et les avaient amenés dans ce qu'on appelait un lieu primaire avant le départ, soit vers le Vel'd'Hiv, soit directement vers Drancy, ou pour certains, vers les camps du Loiret. Et avec sa sœur, il y a eu en fait toute une série d'ordres et de contre-ordres pendant toute la journée, savoir si les enfants de 14 à 16 ans pouvait être libéré ou pas. Et quand ça s'est confirmé vers la fin de l'après-midi, mes grands-parents ont été un des rares couples à dire aux enfants, vous avez cette possibilité, ne restez pas.
Partez.
Mmh. Alors que d'autres parents retenaient leurs enfants n'envisageaient pas de séparation.
Alors tu rappelles tout le processus d'exclusion des Juifs qui va aller jusqu'au port de l'Étoile Jaune, mais avant même l'occupation allemande, il y avait déjà un processus d'exclusion des Juifs. La société française était déjà antisémite.
Il y avait une société qui était antisémite, il y avait un antisémitisme virulent, mais qui n'était pas du tout majoritaire. Il pouvait être très virulent. Avec le Front Populaire, effectivement, il y a un certain nombre de choses qui se sont révélées, mais comme il y avait eu des lois contre les Juifs factieuses et des lois aussi contre le racisme, les injures racistes, les choses étaient... comment dire, n'était pas toujours évidente. Et c'est effectivement avec la divine surprise de la défaite et la prise de pouvoir, parce que c'est pas autre chose, hein, c'est un coup d'État, la prise de pouvoir par Pétain, qui va faire que tous ces antisémites vont se retrouver dans les ministères, au pouvoir, et vont avancer tous leurs pions pour que l'antisémitisme devienne la religion de l'État. Hein.
Il y a donc une accélération dès l'automne 40.
Alors, il y a même les premières mesures, elles interviennent dès l'été. Ils remettent en cause le décret Crémieux, qui en octobre 70 avait donné accès à la nationalité française à tous les juifs d'Algérie, qui jusque-là étaient considérés comme des indigènes. Mmh. Alors des indigènes de meilleure catégorie que les indigènes arabes, mais indigènes quand même. Il y a eu également... un travail de remise en cause des naturalisations qui avait été effectué à partir de 1927, et ça c'est dès l'été. Et le premier gros coup de semonce, c'est le 3 octobre 40 avec le premier statut des Juifs, qui met de façon officielle les Juifs à l'écart de la société, leur interdit tous les métiers de l'administration, enfin toutes les fonctions administratives, tous les métiers type avocat, médecin, etc.
L'enseignement, Marc Bloch,
voilà. Par exemple. Et dans la foulée, à partir de la fin de l'automne, le fait d'indiquer que son activité, qu'on tienne une boutique ou un commerce sur les marchés, est une société au titre du commerce, hein, est une entreprise tenue par des Juifs.
Alors, on aborde la question de la spoliation avec ça, et la nomination d'administrateur de biens. C'est en quelle année que ça va intervenir? Et puis tu peux peut-être nous donner rapidement l'exemple de tes grands-parents?
Oui. En fait, ça va s'accélérer en 1941. Alors, Maurice ne donne pas la date exacte. Il dit que ça va se passer forcément en mai ou en juin 41. Il voit arriver un soir un type qui se présente comme étant administrateur du commerce de mes grands-parents. En fait, le commerce de mes grands-parents, il se résumait à une charrette à bras et au fait de vendre des bas et des chaussettes sur les marchés. Il quittait Vincennes le matin de bonne heure pour aller sur le marché ou les marchés d'Aubervilliers. Il revenait tard dans la soirée et c'était effectivement pas d'un grand rapport et en fait il n'y avait rien à spolier, donc l'administrateur n'est jamais revenu, dit Maurice. Mais en attendant, ça a fait l'objet d'une procédure qui a démarré fin 41 ou début 42, je retrouve les éléments exacts, et qui ne s'est achevée qu'en mai 1944, c'est-à-dire mes grands-parents étaient déjà plus là depuis presque deux ans, ils avaient disparu à Auschwitz, mais la procédure, elle, elle a duré presque trois ans. Donc il y a eu, je crois, près de 35 000 dossiers de spoliation, alors avec des fois des commerces beaucoup plus conséquents, que ce soit des boulangeries, que ce soit des bijouteries, etc. Mais je mets dans mon bouquin, je parle en parlant des grands-parents, je dis que c'est la spoliation de la misère, parce que sur ces milliers, moi j'en ai vu plusieurs centaines de dossiers. Et sur les centaines que j'ai vues, la plupart, ça peut être la spoliation d'une machine à coudre, d'un tout petit stock, de trois fois rien, de quelques outils. Mmh, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à récupérer. Ouais. Puisque ces administrateurs, en fait, ils avaient comme... ils étaient, comment dire, sous la tutelle du commissariat général aux questions juives. Et il y avait une section spécifique pour les administrateurs qui étaient nommés. Et qui chacun suivait 10, 15, 20 dossiers. Et ils avaient comme mission de gérer donc, l'entreprise jusqu'à sa vente ou sa liquidation. Mmh. Et l'argent de la vente ou de la liquidation allait à la caisse des dépôts et consignations sur deux comptes. Il y avait un compte qui était destiné au commissariat général aux questions juives, qui abondait, je dirais, le budget du commissariat général aux questions juives, et un compte dit de consignation supposé garantir, comment dire, l'avenir pour ceux qui avaient été privés de leur commerce ou de leur entreprise. En fait, on s'est retrouvé dans les années 80 ou 90 à retrouver des milliers de comptes en déshérence à la Caisse des dépôts. Ça a fait un scandale. Ça a aussi nourri la commission Mattéoli qui oui. Avait été nommée par Jospin à partir de 97 pour précisément travailler sur la spoliation et son ampleur. Mais le dossier de spoliation de mes grands-parents, il fait 25 pages, mais ces 25 pages qui sont totalement vides. Il y en a plusieurs qui sont reproduites dans le livre pour montrer effectivement la vacuité, mais ça va jusqu'au bout. C'est-à-dire que la procédure, elle consiste à supprimer tout ce qui a existé, que ce soit au registre du commerce, soit au tribunal. C'est-à-dire que, en fait, l'idée, c'est tout ça n'a pas existé. Et on le supprime.
Mais oui, c'est ce qu'on retrouvera sur un autre exemple, d'ailleurs. Alors, on parle de la rafle du Veldiv, mais on oublie un peu celle de 1941, le billet vert. En deux mots, c'était quoi, le billet vert?
En fait, c'est la première rafle antisémite. Hein. Mmh. Il y a déjà eu quelques arrestations, il y avait déjà eu... mais, en fait, on l'appelle rafle, c'est un peu abusif, même si ça se termine un peu comme une rafle. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en mai 1941, plusieurs milliers d'hommes ont reçu une convocation, essentiellement Paris, région parisienne. C'était des Juifs et des Polonais. Ont reçu une convocation pour se présenter dans les commissariats. Et en fait, ils n'ont jamais été libérés. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, c'est environ 4000 hommes qui se sont retrouvés dans les trains en direction des camps du Loiret à partir de je ne sais plus quelle gare. Enfin bon, peu importe, ce n'est qu'un détail. Mais c'est vrai que c'est une rave dans la mesure où on leur a mis la main dessus et ils ne sont jamais revenus. Mais en fait, au départ, ils ont répondu à une convocation. Alors certains n'y sont pas allés. Je crois qu'ils visaient 6 000 victimes, il n'y en a eu que 4 000.
On parle aussi du lieu de résidence. Alors la plupart résident dans l'Est parisien, tes grands-parents résidaient à Vincennes, mais d'autres viennent de Lorraine, de Champagne. Pourquoi les amenait-on à Drancy pour après faire ce sinistre voyage ?
Alors, d'abord sur la composition des lieux de résidence, c'est vrai que ça a été un travail assez important parce que il me semblait nécessaire d'expliquer d'où venaient toutes ces victimes. Alors, l'arrondissement le plus représenté, c'est le 11e. Sur les 993 victimes, il y en a 163, je crois, qui résidaient dans le 11e arrondissement. Après viennent le 19e, le 20e, le 10e, et puis 3e, 4e, et puis les autres arrondissements parisiens sont beaucoup moins représentés. Et puis après, c'est beaucoup plus effiloché sur la région parisienne. Peut-être Vincennes, Bagnolet, Montreuil. J'ai même retrouvé des gens qui habitaient à Drancy, hein, qui ont été arrêtés de Drancy et qui ont été internés à Drancy. Enfin, il y en a quelques-uns. Hein. Et puis, il se trouve que dans le convoi, il y a à peu près un peu plus d'une centaine de personnes qui croupissait dans un autre camp d'internement que les habitants dans le coin appelaient le Petit Drancy, le camp des Écrouves, camp militaire qui avait été transformé par à la demande des Allemands en camp d'internement. Donc c'est à quelques kilomètres de Drancy, de Nancy, pardon. Et dedans, effectivement, étaient enfermés des gens qui venaient de tous les départements autour de Nancy, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Vosges, etc. Il y a les gens de Lunéville, il y a les gens de Nancy, il y a les gens de Saint-Dié, j'en oublie un certain nombre, mais ils avaient été regroupés là, et je pense qu'il fallait compléter le convoi, et en fait, à un moment donné, ils les ont ramenés vers Drancy, et quand ils ont composé le convoi numéro 11, ils faisaient partie du lot.
Donc il fallait faire du nombre, quoi. Puis quand
oui,
on avait le nombre,
il fallait absolument approcher les plus ou moins 1000 déportés du train.
Tu relèves des actes de dénonciation, mais il y a aussi des actes courageux de voisins, parce que c'est fallait être courageux quand même à cette époque pour prendre les enfants, les cacher. Quel a été le sort de ces enfants cachés?
C'est dans la partie où je parle des plus jeunes enfants. Là, il y a quelques adolescents qui ont bénéficié aussi de ça. Mais il est arrivé parfois, effectivement, que ces enfants cachés, ça se soit fait très très vite au moment de la rafle le 16 juillet, que les parents aient réussi, grâce à des voisins, à confier les enfants, que ces voisins aient eu l'intelligence de les cacher à la fois chez eux dans un premier temps, puis de trouver ensuite les moyens de les cacher à la campagne, parce que les gamins qui restaient sur Paris, il y avait peu de chances qu'ils survivent très très longtemps. Et donc, effectivement, il y a eu des actes courageux dans tous les arrondissements de Paris, les 16 et 17 juillet, oui. Il y a beaucoup de gens qui se sont mouillés, ou des gens qui n'avaient pas été raflés, qui ont fait ce qu'il fallait avec les plus petits, oui, bien sûr.
Alors, tes grands-parents sont dans le convoi, ils partent, le voyage est éprouvant. Comment se déroule l'arrivée au camp? Je crois d'ailleurs que tu reprends le témoignage d'Éléonore Kagan.
Alors pendant longtemps, ça faisait partie un peu de l'histoire familiale. On a toujours pensé que tout le monde, ou presque tout le monde, avait été exterminé à l'arrivée. Et en fait, cette recherche m'a permis de me rendre compte que ce n'était pas le cas. Que le convoi numéro 11 est un des rares convois de l'été, peut-être avec le 10, le 12, je ne sais pas, il faudrait que je vérifie, où il n'y a pas eu de sélection à l'arrivée. En fait, ce qui m'a permis de me rendre compte de ça, c'est qu'il y a 13 survivants. La fameuse Éléonore Kagan, qui elle a survécu parce qu'elle était trilingue français, polonais, allemand, et qu'elle a été finalement embauchée pour travailler à l'état civil du camp, ça l'a sauvée. Et les 12 autres, qui sont des hommes, ça va de, en gros, un peu moins de 30 ans jusqu'au plus vieux qui a 52 ans lorsqu'il est arrêté, ce qui est tout à fait étonnant. C'est une survie étonnante à cet âge-là. Après, ça dépend des commandos dans lesquels ils ont été versés. Enfin, oui. C'est vraiment c'est la loterie, les commandos, et ça n'explique pas tout. Mais... Et du coup, comme le numéro tatoué sur l'avant-bras des déportés à l'arrivée était communiqué dans la base de données, et que chacun des 12 déportés hommes représentait une partie de l'alphabet, j'ai pu me rendre compte que de A jusqu'à Z, ils avaient pris la liste du convoi par ordre alphabétique, et que du coup tout le monde avait été tatoué, tout le monde était rentré dans le camp. Sauf que ce que dit Léonore Kagan, qui a témoigné auprès de Olga Wormser-Migaud, qui a été une de celles qui a œuvré à la fin des années 40, début des années 50, pour récupérer le maximum de témoignages avant que ces gens ne disparaissent. Elle indique que quelques semaines après l'arrivée du convoi, la plupart des déportés étaient décédés.
Et comment sont décédés tes grands-parents, alors ?
Alors, on ne le sait pas. On ne sait pas si c'est mauvais traitement, si c'est maladie, si c'est la famine, si c'est la folie d'un capot ou d'un SS qui tire, qui donne un coup sur la tête. Enfin, on peut imaginer toutes ces horreurs. Moi, ce que j'ai retrouvé, et ce que ne connaissait pas Maurice, et je ne m'attendais pas à le retrouver, c'est ça aussi qui m'a donné la puce à l'oreille, hein, c'est que je me suis adressé aux archives Harolsen. En Allemagne, c'est la ville de Bad Harolsen conserve depuis quelques dizaines d'années toutes les archives des camps, en tout cas tout ce qui a pu être sauvé. Et il se trouve qu'ils ont en main une partie seulement, mais une partie significative de ce fameux état civil. Et j'avais recherché sur leur base de données, je n'avais pas trouvé, et dans ce cas-là, ils conseillent de s'adresser à eux par un courrier électronique, ce que j'ai fait, et ils vous disent, bah, sous 8 jours, on vous répond si on trouve quelque chose. Ils m'ont répondu dès le lendemain, et dès le lendemain, ils m'ont dit qu'ils avaient retrouvé l'acte de décès de mon grand-père. Mais que pour ma grand-mère, ils savaient qu'elle était présente sur 2 listes de convois, le 10 et le 11, même si elle n'est partie que par le 11, mais qui n'avait rien retrouvé d'autre. Et donc, ce que je sais, c'est que mon grand-père est mort le 13... Non, j'ai une bêtise. Enfin, le 19 août, 3 semaines après être entré dans le camp. Sauf que ce certificat de décès, il n'indique que rien d'autre. Il indique la date, l'heure,
mais pas la cause.
Mais pas la cause. Mmh. Il y a une adresse, on se dit, tiens, peut-être que c'est un indice, mais l'adresse, en fait, c'est l'adresse officielle du camp. C'est Kasernenstrasse, qui est l'adresse, qui veut dire la rue des casernes, puisque c'était, avant Auschwitz, un camp militaire polonais.
Ouais. Alors, tu décris avec précision dans ton livre toute la machine à détruire. Tu insistes sur la participation de Vichy. Et puis on arrive à la libération, et là c'est une période trouble que celle de la libération, avec notamment le nettoyage des archives pour blanchir les fonctionnaires français. Et un moment étonnant dans ton livre, c'est que vous retrouvez celui qui a arrêté, raflé tes grands-parents, ton père.
Et ma tante. Et
ta sœur.
Ma tante.
Voilà, sa sœur. Ça, il a eu une belle carrière, ce monsieur, finalement.
Alors, ce flic Mulot...
Oui, c'est bien, on a le nom.
Il s'appelle Mulot, oui. Ouais. Mon père l'appelait le rat Mulot.
Bon.
Bon, les choses étaient dites. Et il se trouve qu'il avait été voisin de palier pendant plusieurs années à Vincennes, dans le même immeuble. Donc, ils se croisaient pendant des années. C'était... salut un peu protocolaire, enfin, comme on peut saluer entre voisins qui n'ont pas forcément envie de voisiner, mais bon, on se connaissait, on savait qu'on habitait... Ils habitaient au même étage, au 3e étage. Et c'est ce même flic qui avait déménagé quelque temps auparavant qui, le matin du 16 juillet, à 5h du matin, cogne très fort sur la porte à coups de poing et à coups de pied en disant « ou police, ouvrez ». C'est ce même policier qui va les amener à pied rue Louis Besquel, là où se trouve un des deux centres de regroupement primaire des Juifs arrêtés le 16 juillet. Et il se trouve que ce flic, Maurice et sa sœur, vont le retrouver à plusieurs reprises. La première fois, c'est vers la fin 44, quand Maurice décide de refaire ses papiers. Il a été caché dans les dernières semaines hein, pour éviter d'être effectivement emporté par les derniers convois. Et quand il revient à Paris, il faut qu'il refasse ses papiers, puisqu'il a des faux papiers, en fait, qui ont été faits par une gendarmerie dans le Vexin, par différents canaux de résistance. Et quand il va au commissariat de Vincennes pour refaire ses papiers, il tombe sur Mulot, qui est derrière le comptoir, à l'entrée du commissariat. Il retient son souffle, il retient sa salive, il explique qu'il vient refaire ses papiers, et le flic Mulot lui dit « C'est pas possible, tu es mineur, il te faut l'autorisation de tes parents. » Maurice commence à l'insulter de tous les noms, « Vous êtes un salaud, c'est vous qui nous avez arrêtés, vous avez arrêté mes parents qui sont jamais revenus, etc. » Le saumon de vinaigre, Maurice raconte quelque part qu'il voit le moment où il va sauter de l'autre côté du comptoir pour lui mettre un pain. Oui. À ce moment-là, d'autres flics arrivent et font passer le Mulot derrière, calment la situation, refont les papiers à Maurice comme si de rien n'était. Ça, c'est la première rencontre d'après-guerre. Il y a une deuxième rencontre, je crois, qui a lieu au début 1945, quand Maurice et sa sœur ont adhéré au PC, comme des millions de gens à l'époque. Hein. C'est,
oui.
C'est le premier parti.
Hein. Ouais, oui, 26 et quelques pourcents. Mmh.
Jusqu'à 27-28%. Mmh. Oui, et ils vont à une réunion de section un jour, je ne sais plus sur quel thème, etc. Et ils tombent sur Mulot. Mulot avait sa carte au Parti communiste. Donc, la réunion passe, ils disent rien. Et passé la réunion, ils vont voir les responsables de la section en disant « Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce type ? C'est ce flic a arrêté nos parents, c'est pas possible qu'il soit au parti, etc. » Donc, le responsable de la section dit « Bon, on va enquêter, on revient vers vous très vite. » Et quelques jours après, ils reviennent vers Maurice et sa sœur en expliquant que le camarade Mulot, hein, c'est très important, le camarade Mulot, avait rendu de grands services au parti pendant l'occupation. Donc, fermer le banc, il n'y avait plus rien à dire, quoi. Voilà.
Ouais.
Donc, ça n'a pas arrangé les choses, je pense, que du côté de Maurice et de sa sœur. Un an plus tard...
Je comprends pourquoi il a fait un bouquin « Je n'aime pas la police de mon pays
». Oui, bah, il y a effectivement un événement fondateur et les suites. Et puis, il le retrouve au début des années 50, dans un bar à Saint-Germain-des-Prés, où il le traite de tous les noms... Et ça ne s'arrête pas là, puisque dans les années 80, il rédige un bouquin précisément sur l'arabe du Veldiv, et il explique qu'il a essayé de retrouver Mulot, et il se trouve que il aimait beaucoup consulter les annuaires, Maurice, et il retrouve le fameux Mulot. Et il l'appelle. À l'époque, le gars, il devait avoir peut-être 75, 80 ans, il était à la retraite. Et il se présente, il dit qui il est, et le gars dit « ça ne m'intéresse pas », il raccroche. Donc Maurice en parle, etc. Enfin, il revient là-dessus. Et puis après, je pense que le gars disparaît de la circulation. Il avale son bulletin de naissance, on n'entend plus parler de lui. Et moi, j'ai la curiosité qu'il n'avait pas forcément eu Maurice aux archives de la préfecture de police qui sont auprès Saint-Gervais. N'importe quel citoyen peut aller aux archives de la préfecture de police et demander d'accéder à un certain nombre d'archives appartenant où elles ne sont pas... sous le coup de tant d'années ou qu'elle ne concerne pas X, telle personne ou tel type d'activité, mais disons que c'est de droit, on peut aller consulter des archives qui sont libres de droit, après uniquement les avocats ou les historiens ou les chercheurs. Et j'ai posé la question aux gens qui sont à l'accueil, souvent ce sont des conservateurs, qui sont très libres, hein, qui n'ont pas, enfin ils sont pas là pour défendre la police apparemment. Et les discussions qu'on peut avoir sont tout à fait, je dirais, si ce n'est sympathique, au moins.
Et alors qu'est-ce que tu vas trouver ?
Et je dis, est-ce qu'on peut retrouver le dossier d'un gardien de la paix qui aurait commencé sa carrière dans les années 30 et qui l'aurait fini récemment dans les années 60. Le gars commence par me dire, oh là, je vous arrête tout de suite, les dossiers des gardiens de la paix ont tous été détruits, ça n'existe plus, il y en avait des dizaines de milliers, ça n'a pas été gardé, etc. J'insiste, je lui dis, mais même si éventuellement il aurait connu une carrière, il me dit, bah, écoutez, si il a fait autre chose que gardien de la paix et qu'il a connu une certaine évolution dans la hiérarchie, ça vaut le coup de regarder. Et donc il m'aide, il regarde avec moi, et on trouve deux mulots. Un mulot qu'on écarte tout de suite parce que c'était un médecin, un collabo qui avait échappé à l'échafaud, à la libération. Et puis le fameux mulot, gardien de la paix. Et d'ailleurs, j'ai amené... Alors, c'est pas son dossier personnel, ce sont des décisions administratives.
Ouais.
Et donc, j'ai pu photographier ce qu'il y avait sur un écran parce qu'il n'était pas possible de l'imprimer. Et donc, j'ai pu voir à quelle date... Il rentre dans la police comme stagiaire, à quelle date ensuite il est mis à la retraite et comment sa carrière va évoluer, les gratifications qu'il va avoir, les augmentations.
Moi, comment... ce qui me paraît surtout intéressant, c'est qu'il est officier de police adjoint en fin de carrière.
Oui, absolument. Et il devient officier de police adjoint dans les années 50.
Bon.
Et ensuite, il sera versé aux archives.
Bon,
c'est là qu'il va connaître.
Un grand camarade. Ça doit être un grand camarade. Oui, dis-moi, absolument. Parce que le temps passe, est-ce que des personnes, parce que tu as, dans ton livre, tu as publié quantité de noms, est-ce que des personnes t'ont contacté pour après la publication ? Non, pas encore ?
Le livre est arrivé en librairie le 11 septembre, c'est pas une grosse mise en place, comme on dit dans l'édition, parce que c'est quand même un livre assez particulier sur un sujet qui est pas facile, donc je pense que les gens intéressés finiront par le savoir, soit par des articles de presse, soit par le bouche à oreille. Donc on verra à ce moment-là. Mais pour l'instant, non, j'ai eu ni quelqu'un qui m'a appelé en disant comment ça se fait, je suis dans le livre, je l'ai pas demandé, ou quelqu'un qui m'aurait dit ce que vous dites n'est pas tout à fait exact, ou au contraire j'ai des informations sur telle personne dont vous ne parlez pas. Parce qu'en fait dans le livre je parviens, que ce soit deux lignes ou parfois un paragraphe, à évoquer des trajectoires d'environ 450 victimes, ce qui est déjà beaucoup.
Oui. Et donc, on peut dire à nos auditrices et nos auditeurs que si elles ont la curiosité, ils veulent avoir des informations, ils peuvent notamment passer par nous et que nous transmettrons évidemment à Marc les demandes. Merci Marc pour cet échange. Je rappelle les références du livre. Marc Plocky, 993, le convoi numéro 11, Drancy-Auschwitz, 27-29 juillet 42 aux éditions Sileps en 2025. Et nous allons écouter le choix de Marc pour clôturer cet échange. J'habite à Drancy de Jean-Guy Denis. Frédéric, on y va.
Contrôle des cylindres, ouais c'est ça mon business. Et j'attends calmement que ces tubes en ciment aient bouffé ma jeunesse. Je dis pas ça pour me plaindre. Le soir après les courses, je grimpe mes quatre étages. Et je regarde la télé devant mes surgelés. Courir c'est plus de mon âge, c'est vrai je vis comme un ours. Après je me couche et je pense à des riens, à mes traites, à tous mes petits soucis. Moi j'habite à Drancy, à la cité de la muette. On peut dire que j'ai de la chance. Si t'es de la muette, tu parles, mais pas muette pour tout le monde. Si seulement une nuit, je pouvais vraiment dormir. S'il n'y avait pas toujours ces drôles de voix qui grondent. S'il n'y avait pas ces murs à sans arrêt gémir. Qu'est-ce qu'elle a cette baraque à grincer comme un brick? Qu'est-ce qui peut bien comme ça devoir la tourmenter? La faire pleurer, tous ces moellons. Et de ces briques, et me faire somnambule dans mon F3 hanté. Ce soir, je ne veux plus de pleurs, j'ai trop besoin de silence. Et me voilà dans la nuit à faire la chasse au bruit, frappant avec violence mon vieux papier à fleurs. Montrez-vous les fantômes que je gueule à perdre haleine. Mais soudain, je ne chante plus, heurté comme par un flux, par une marée humaine, un effarant mono. Et voilà que je commence à mieux voir des silhouettes. C'est ceux qui campent ici, dans mon F3 de Drancy, à la cité de la muette. Vous parlez d'un coup de chance. Ils sont vraiment partout, ils sans voir vont et viennent. On dirait ma parole qu'ils sont ici chez eux. Ils sont tout occupés à des tâches quotidiennes. Mais à leurs gestes, je vois quelque chose de fiévreux. Ils ratent comme un déloc, ils astiquent des gamelles. D'autres qui ne faisaient rien, soudain se mettent en rang pour crier des prénoms. Simon, Henri, Rachel, Aimé, Dora, Maurice, Lucienne, David, Laurent. Et maintenant je sommeille en plein milieu de la foule, m'habituant à ces gens, moi aussi criant chant avec la chair de poule. Quand un cauchemar m'éveille, alors je vais à ma fenêtre regarder le trafic des nouveaux arrivants, des nouveaux revenants, selon l'obscure logique que nul ne doit connaître. On leur donne des quittances pour les biens qu'ils remettent, en disant grand merci, on vit de peu. À Drancy, à la cité de la muette, rendons grâce à la chance. Dormez si vous pouvez, étranger dans mon gîte. Tors-toi vieil antiquaire adossé au frigo. Toi tailleur du sentier, que la frayeur agite. Dors-toi le polonais, dors-toi le parigot. Et toi le doux poète Max, si tu peux repose parmi tous ces enfants dans ma chambre d'amis, qu'une femme en pleurs versa en leur chantant les roses prêtes à cueillir là-bas et qu'elle y endormit. Demain avant le jour, tout rentrera dans l'ordre et vous serez tendu, il est bien entendu. Les chiens sont là pour mordre. En route et bon séjour. On va repeindre vos turnes, mettre du papier à fleurs. C'est la crise du logement. On ne peut éternellement se recouvrir de malheur et de cendres sans une. Partout il y a des nuisances, faut plonger sous sa couette, essayer de faire comme si, moi, j'habite à Drancy, à la cité de la muette, on peut dire que j'ai de la chance.
Entrons dans le troisième temps de l'émission, que nous appelons parfois Varia, et c'est Dominique qui va nous présenter les leçons de McEwan chez Gallimard en 2024. On y va, Fred.
Alors Dominique, aujourd'hui nous parlons d'un livre de Ian McEwan qui est sorti chez Gallimard en 2024 et qui s'appelle Leçons. D'abord, qui est cet auteur ?
Alors c'est un auteur anglais que j'adore car il met en scène des personnages marginaux sous une apparente normalité. Il greffe de multiples personnages et intrigues secondaires ainsi qu'une satire féroce des institutions anglaises, un peu comme Jonathan Coe. On y trouve également une méditation sur l'enfance et le temps. J'avais beaucoup aimé Expiation, qui s'interroge sur le pouvoir de manipulation des écrivains, et Dans une coque de noix, dans lequel il fait parler un bébé dans le ventre de sa mère. Donc c'est toujours très original.
Ah oui, en effet.
Il est lauréat de nombreux prix anglais et français, dont le Femina en 1993, et en 2024, il reçoit le prix Jean Monnet pour Leçon que je vais vous présenter.
Alors, le prix Jean Monnet pour un livre, alors que raconte ce livre ?
Alors, c'est l'histoire d'un anti-héros, un homme sans qualité de Musil, d'ailleurs il le cite lui-même, ce livre, et qui raconte sa vie, cet anti-héros raconte sa vie entre 1940 et 2020, comme un chroniqueur désabusé par lui-même. L'auteur reprend beaucoup d'éléments autobiographiques. L'auteur a eu un père officier écossais dans le Commonwealth, une enfance aux colonies, et notamment en Libye, au moment de la crise de Suez. Il a fréquenté un pensionnat anglais très dur, hein, les pensionnats anglais sont pas réputés pour leur bienveillance, et une situation familiale comportant de lourds secrets. Mais la veine imaginative reprend rapidement ses droits.
Alors comment commence ce livre ?
Alors, lorsque s'ouvre le récit, Roland Baines, 37 ans, s'est fait plaquer sans préavis par Alicia, avec pour seule explication qu'elle s'était trompée de vie. Elle veut consacrer sa vie à la littérature, elle veut devenir écrivain. Alors, il veut aussi, lui, devenir écrivain, mais lui, ça va, il va tout rater. Il vit de petits boulots et se retrouve seul avec Laurence, son fils âgé de 6 mois. La rupture intervient au moment du passage de nuages de Tchernobyl. Pour Roland, commence une longue rumination de ses échecs. Lui, dont l'existence a été semée de sceaux d'une grande brutalité. La plus grande brutalité est l'attitude de la professeure de piano qui l'a violentée au moment de ses leçons de piano.
Ben c'est un homme sans combativité, vraiment ?
Oui. Alors, il est spectateur de sa vie, études ratées, petit boulot, pianiste de bar, poète de slogans publicitaires, amant malheureux. Ses souvenirs sont un peu désordonnés. Il prend comme modèle un héros de Conrad, Marlowe, mis en scène dans Jeunesse et d'autres nouvelles publiées en 1933. Ce héros connaît des gros problèmes en mer, donc un coup il est en haut des vagues, un coup il est en bas. Mais comme bon, nos vies ne sont jamais linéaires. Roland fait partie de ces gens qui ne trouvent jamais leur voie. Il est assez doué pour pas mal de choses, comme la musique, mais il est incapable de choisir, de concrétiser, de s'engager. Sans doute L'abus dont il a été l'objet a-t-il mis en marche une réaction en chaîne qui l'empêche de terminer ses études secondaires, d'avoir une relation satisfaisante avec une partenaire ou de vivre autrement qu'en collectionnant les petits boulots qui lui permettent tout juste d'élever son fils?
Alors, les femmes dans ce livre sont un peu spéciales, entre cette professeure de piano, sa femme qui le quitte, à la fois c'est oui. peut-être un peu banal, mais non, il y a autre chose.
Oui, alors la professeure de piano, autoritaire et possessive, va tomber amoureuse de l'adolescent, hein, plus encore que de ses réels talents musicaux. Elle va le tenir sous son emprise sexuelle entre ses 14 et 16 ans. Elle va même jusqu'à le séquestrer, en lui ôtant ses vêtements pour l'empêcher de s'enfuir. Une expérience en ces années 70 où d'aucuns défendaient plus ou moins la pédophilie au nom de la liberté sexuelle. Donc ça va bouleverser sa future vie sentimentale, lui interdisant longtemps le bonheur, mais aussi ça va mettre un terme à ses études. Alors on ne sait pas si ça lui est arrivé, hein. Il ne le dit pas. Mais on sent quand même un petit peu de vécu. Sa femme, elle, ne pense qu'à une carrière littéraire et le quittera pour cette raison. Elle arrivera à devenir une grande écrivaine en coupant tous les liens avec son mari et son fils. Elle met en scène des moments de vie avec Roland en le faisant passer pour un mari violent, ce qu'il n'est pas. La littérature a tous les droits, dit-elle. Elle écrit un livre sur lui en disant qu'il est violent. Dans les deux cas, quand Roland cherche à rencontrer ses femmes à la fin de sa vie, il rencontre des femmes froides et insensibles.
Et il y a beaucoup de questions de l'Allemagne dans ce livre.
Oui, alors sa femme et son beau-père sont allemands, sa femme qui l'a quitté. Les passages, donc, ils sont de Munich, hein, il va consacrer des passages très importants et intéressants à la Rose Blanche.
Alors, donc, on peut rappeler
oui, Rose Blanche. Ce sont des jeunes de Munich qui ont été en fait les premiers résistants, qui avaient distribué des tracts dans l'université et qui ont bien sûr été arrêtés, torturés et exécutés.
Voilà.
Oui. Son beau-père a connu la famille de Sophie Scholl et l'auteur revient sur cet épisode sanglant de la résistance allemande. L'auteur parle aussi du Cavalier Bleu en 1912, qui est un mouvement culturel de peinture. Et on y rencontre d'ailleurs Gabriel Mutter, qui a été exposé à Paris il n'y a pas longtemps.
Oui, et Agnès en a parlé oui. dans une précédente émission.
Oui. Oui. Bon, il va boire des cafés à la fameuse brasserie Adler de Berlin. Se rend en Allemagne de l'Est et raconte la vie sous les radars des opposants politiques avec le sinistre ministre de la Sécurité, Eric Mielck. Il s'offuste contre la BBC, qui encense à un moment donné le régime de la RDA, alors qu'il y avait 200 000 prisonniers politiques. Il décrit aussi très bien dans ce livre la chute du mur de Berlin, mais parallèlement, on y lit aussi les excès du libéralisme thatchérien, le Brexit et la prise de conscience de la vulnérabilité de la planète, puisque c'est au moment de Tchernobyl.
Ah oui, c'est vrai. Oui. Et en fait, il y a des leçons de vie à en tirer.
Oui, alors qu'est-ce qui fait une vie? Tous les destins sont le produit de circonstances, événements et accidents personnels et mondiaux, minuscules et capitaux, dit-il. C'est pas qu'une affaire de volonté et de choix personnels. Les circonstances nous lancent sur un chemin plutôt qu'un autre. En fait, c'est des aiguillages et parfois on prend le mauvais aiguillage. Les grands mouvements collectifs nous emportent, les guerres, les crises économiques, écologiques, les changements dans les modes de gouvernement. Roland se pose plein de questions. À quoi sert la poésie quand on a besoin d'argent? Pourquoi est-il pauvre sous l'État-providence? Les enfants reproduisent les erreurs des parents. Un fils, qui est le seul bonheur dans sa vie, mais qui c'est un matheux surdoué, mais va répéter le schéma paternel. Sortie prématurée d'école, petit métier, errance. Même si l'espoir reste permis, il va suivre une maîtrise en sciences climatiques malgré l'absence de son bac. Bon, son fils reste une lueur d'espoir. En vieillissant, il commence à interroger ce qui lui a donné de la lumière, et c'est son fils. Donc ce livre, c'est une introspection. C'est assez rare dans les livres aujourd'hui hein, d'avoir cette introspection aussi poussée.
D'accord. Donc, on rappelle le titre. L'auteur, le titre.
Leçon de Yann McEwan chez Gallimard.
Et le prochain ouvrage?
Alors, le prochain ouvrage, c'est un ouvrage de Stefan Zweig, qu'on aime bien ici,
oui.
mais qui est assez peu connu, Conscience contre violence, paru au Livre de Poche.
Merci.
Autre thème lié à l'histoire, Spartacus. Spartacus, un livre d'Arthur Koestler. Et revenons sur cette révolte d'esclaves en Italie. Et c'est Agnès qui va nous présenter ce livre. On y va, Fred.
Spartacus, écrit par Arthur Koestler, aux éditions Kalman Levy. Arthur Koestler est né à Budapest en 1905 et a été d'abord militant communiste et journaliste avant de devenir un fervent opposant au stalinisme. Le roman de Spartacus est son premier roman sur l'histoire des révolutions. Il se présente à l'époque romaine, dans l'Empire romain du 1er siècle de notre ère. Spartacus est un esclave thrace, formé par une école renommée pour devenir gladiateur, avec une cinquantaine d'autres esclaves d'origine diverse, dont Crixus, celte d'origine. C'est lors d'un de ces combats présentés dans les arènes de Capoue qu'ils réussiront à fuir. Leur fuite les mènera de pillage en pillage, mais aussi de ralliement de beaucoup d'autres à leur cause. Ce sont des valets, des bergers, des artisans, des journaliers, des vagabonds, des esclaves, des pauvres, des érudits, des écrivains. Ils sont de toutes nationalités, celtes, croates, syriens, latins, allemands, thraces. De leur pillage, ils gagneront l'équipement, la nourriture et des chevaux pour les conduire dans le sud de l'Italie, en Lucanie. Ces 200 000 hommes et femmes qui suivront son chemin pour la liberté. Spartacus représentait le dénominateur commun de leur espoir et de leurs vœux contradictoires. Les gens de la vallée parleront de lui comme d'un prince, un nouveau Hannibal, et considéreront que cette horde de brigands comme l'emblème de la victoire possible sur les légions de Rome. L'ennemi que Rome avait fait naître, ce héros à la stature gigantesque qui portait une peau de bête pour tout vêtement et accueillait dans sa légion vengeresse les pauvres et les asservis. Spartacus, en créant l'État du Soleil, veillera à préserver les identités de chaque peuple en leur laissant construire chacun leur maison dans leur tradition. La règle principale de la cité sera la communauté de production. Ils sont tous exempts de l'impôt romain et les terres comme les entrepôts de leur ville n'appartiennent qu'à eux seuls. L'argent est aboli. Toutefois, pour préserver tout débordement, il oblige son peuple à un règlement fort austère, juste mais implacable, tout contrevenant étant condamné à la croix. Fort de cet ensemble, les tensions et les désaccords s'accumulent, faute aussi de denrées suffisantes et de l'ennui de certains, notamment les Celtes qui préfèrent Crixus à Spartacus. Crixus, en effet, avait mené à bien toute attaque et pillage de ville en ville sur leur route auparavant. Ces discordes entraîneront la séparation d'une énorme partie du peuple du Soleil. Crixus repartira avec son peuple, pillé, voire massacré jusqu'à sa propre perte, écrasé par les troupes romaines. Et lorsque Spartacus fuira alors sa cité avec son peuple, ce sera pour guider son peuple et les rapprocher de chez eux, jusqu'à leur fin et des persécutions d'esclaves dans l'Italie entière. Vous lirez l'admiration que porte l'écrivain Fluvius à Spartacus, les remarquables échanges avec Zosimos, les mots du prédicateur esséniens, la puissance des portraits faits de chacun d'eux comme de redoutables Romains. Ce roman d'Arthur Koestler rappelle les conflits qui ont marqué le XXe siècle de leur ombre depuis la révolution d'octobre en Russie. L'écrivain, marqué par sa désillusion, voit dans Spartacus une figure à la fois héroïque et tragique. Héroïque parce qu'il incarne le refus de l'injustice, le courage de ceux qui n'ont rien à perdre face à l'oppression. Tragique parce que, comme tant de révolutions modernes, la révolution russe de 1917 en particulier, l'élan initial de liberté se heurte à la réalité politique. Division interne, absence de projet unificateur, entraînant la récupération ou l'écrasement par des forces plus organisées. Kessler dénonce, je dirais globalement, tous ces régimes contemporains, autoritaires ou capitalistes, capables d'étouffer les révoltes au nom de la stabilité ou de la raison d'État. Je vous rappelle son titre, Spartacus, écrit par Arthur Kessler, aux éditions Calmann Lévy.
Eh bien, pour terminer notre émission, je vous propose un livre de détente en ces temps d'automne. Oh, vous allez rapidement trouver ça, et si nous avons un instant, on passera peut-être un extrait d'une chanson de Jacques Dutronc. Ben, je pense que vous allez reconnaître, ben oui, le héros, c'est celui de l'aiguille creuse. 813, étonnant titre que celui de ce roman policier publié par Maurice Leblanc, mettant en scène le célébrissime Arsène Lupin. Nous avons une nouvelle édition publiée chez Folio et préfacée par Adrien Gueuss. Celui-ci nous donne une piste. Dans cet étrange 813, il y a aussi trois chiffres. 8, 1, 3. Trois crimes, un héros, 8 suspects. C'est-à-dire 7 bandits qui finissent roulés et ficelés comme des tapis. Et un adversaire mystérieux qui est peut-être leur redoutable chef qu'il ne convient pas de nommer ici. La préface constitue un guide précieux pour rentrer dans cet épais volume. Il y a l'intrigue, je n'en parlerai pas, sinon où est le plaisir de lire un roman policier. Je m'intéresse plutôt à l'environnement, la restitution d'une époque, Paris, la banlieue, les relations avec l'Allemagne, la société du début du XXe siècle, celle où il n'y a pas eu encore la Première Guerre mondiale. On vit dans un autre temps que le nôtre, évidemment, un peu désuet ce temps charmant, mais peut-être suis-je influencé par la célèbre chanson de Jacques Dutronc, Larsen. L'ouvrage comporte plusieurs illustrations en noir et blanc, accentuant l'aspect dramatique de certaines scènes décrites. Le dossier, en fin d'ouvrage, contient une chronologie comparée de Maurice Leblanc et d'Arsène Lupin, au point que l'on pourrait établir un lien avec Conan Doyle et Sherlock Holmes. Les auteurs et les héros se tendent la main au fil des pages. Les notes permettent d'y voir plus clair, et notamment la référence à d'autres aventures sous forme de romans et aussi de pièces de théâtre, toujours avec Arsène Lupin. Certaines scènes ridiculisent tant les forces de l'ordre que la justice, particulièrement ce pauvre juge d'instruction tout à sa suffisance. Un côté farce du Moyen-Âge ou comédia dell'arte, car le lecteur sait que, à l'arrivée, Lupin sera le plus fort. Certains passages nous replongent aussi dans les mystères de cette Europe antérieure, comme je viens de le dire, à la guerre de 1914-1918. Et les rebondissements tiennent le lecteur en haleine. Si vous choisissez la lecture de cet ouvrage, je vous conseille, une ambiance de lecture. Chez vous, ou dans un endroit tranquille, pas dans le métro. Un temps pluvieux, comme celui que je connais au moment où j'écris cette chronique. Avec un peu de chance, vous retrouverez des maisons bourgeoises, comme celle de la vallée de la Seine, vers Étretat et son aiguille creuse, bien sûr. Avez-vous bien fermé vos portes et volets ? N'oubliez pas que Maurice Leblanc s'est inspiré librement de l'anarchiste Marius Jacob qui prenait aux riches pour donner aux pauvres. Mais vous n'êtes pas riche. Et rassurez-vous, comme lui, Arsène Lupin ne tuait pas. Allez, bonne lecture et bon voyage dans le temps. Maurice Leblanc, 813, édition Folio, 2025. Est-ce que Frédéric, nous aurions par hasard le temps de passer un morceau d'Arsène Lupin par Dutron ? C'est possible ? On y va.
C'est le plus grand, le plus charmant, le plus élégant, avec ses gants, ou bien sans gants, à l'Arsène. Quand il s'amène, quand il s'en mêle, tout se démêle, tout se dégèle, et sans selle, l'Arsène. Quand il s'approche, on cache les broches et les sacoches, il vide les poches, sans arrière-poche, l'Arsène. C'est le roi des casseurs, c'est le roi des tombeurs, il est brillant comme le diamant, rapide comme le vent, l'Arsène. Avec son parapluie, sa moustache mise en pli, l'Arsène. Avec son flair infaillible, il est irrésistible, l'Arsène. Irrésistible et parfois invisible, le bel Arsène. C'est un perceur de coffre-fort, c'est un casseur de joli cœur, le redresseur de tous les torts, l'Arsène. C'est un truand, un gentleman, un bon vivant, étourdissant, jamais perdant, toujours gagnant, l'Arsène. Quand il s'amène, quand il s'en mêle, tout se démêle, tout se dégèle, et sans selle, l'Arsène. C'est le roi des casseurs, c'est le roi des tombeurs, il est brillant comme le diamant, rapide comme le vent, le bel Arsène.
Et bien voilà, chers amis, des livres. C'est fini pour aujourd'hui dans Au fil des pages sur Radio Libertaire. Encore merci pour votre écoute, votre fidélité. N'oubliez pas de nous laisser un petit message si vous voulez passer une information à Marc Plocky que nous avons eu le plaisir de recevoir. Nous, on se retrouve le mercredi 12 novembre 2025. Nous aurons... là aussi, le grand plaisir d'accueillir Sylvie Gillot et Hélène Hernandez pour leur livre « De Ève à Philomène, sans oublier les autres », publié aux éditions du Monde Libertaire. Et vous les connaissez, ces deux dames, puisque ce sont nos amis qui vont prendre la suite dans quelques minutes. Alors d'ici là, bonne lecture. N'oubliez pas l'émission « Le cri du peuple », samedi, à 11h30 sur Radio Libertaire, et l'équipe d'Au fil des pages sur Radio Libertaire vous souhaite, ni Dieu ni maître, un bel idéal de vie. À bientôt et au plaisir de partager.
Après 10 ans d'introspection, je crois avoir enfin compris ce qui contrarie mes relations, c'est que trop souvent j'ai pas d'avis. J'ai des carences en opinion, ça manque à ma conversation. Y a tant de gens qu'en ont l'usage, qu'ont l'air satisfaits de ce truc-là, qui savent en tirer avantage, alors je me dis pourquoi pas moi. Il est temps de combler cette lacune et de rattraper le temps perdu. Je veux des idées à la con, de celles qu'on se ressasse, qu'on arbore au balcon. Géranium en Alsace avec notice épaisse pour les monter soi-même, qui s'adaptent en souplesse à mon écosystème. Ça y est, cette fois c'est décidé, je vais m'équiper, je vais mettre le prix au supermarché des idées, on va me fournir la panoplie. Qui fera de moi un bon petit gars, dont on dira, il est sympa, il a des idées. Il est forte d'odeur, au goût ostentatoire, urine de prédateur, marqueur de territoire, des idées si larges qu'on y tient à plusieurs, des idées ratas pour gaver les soldats. Je choisirai le modèle standard, celui qu'on trouve en magasin, réversible comme un costard, il me faut les mêmes que mon voisin. Il n'est pas des idées neuves, mais des occasions qu'on fait leur preuve.
Des idées mineures, dont on voit jamais le fond, ou des idées vagues, pour faire...
C'est quoi les micros? C'est orange. Orange, et toi, tu te mets où, bleu?
Moi, normalement, c'est noir.
Toi, c'est le noir.
Priez personne,
des idées au gramme,
au kilo, à la tonne.
Des idées foncées,
pour qu'on y voit plus clair.
Et des idées sues,
à oublier par cœur.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.